Chapitre 3. Chez soi. La scène se passe à Londres par une soirée sombre, étouffante et comme moisie. 1000 cloches agaçantes appellent les fidèles à l'église, sur tous les degrés de dissonance, en dièse et en bémol, folles et sonores, lentes et rapides, tirant toutes de hideux échos des amas de briques et de plâtre que l'on appelle des maisons. 1000 rues attristées et repentantes, revêtues d'un cilice de suie, plongent dans un désespoir affreux l'âme des gens que l'ennui condamne à regarder par les fenêtres. Dans chaque rue, presque dans chaque allée, presque à chaque détour, quelques cloches désolées s'ébranlent, s'agitent par mouvements saccadés et retentissent comme si la peste avait envahi la ville et que les tombereaux fussent en tournée pour ramasser les morts. Tout ce qui eût pu fournir le moindre délassement à une population excédée de travail est verrouillé et enfermé à triple tour. Pas de tableaux, pas d'animaux inconnus, ni fleurs, ni pentes rares, pas de merveilles de l'ancien monde, soit naturelles, soit imitées. Tout est sanctifié avec une rigueur si éclairée que les vilains dieux des mers du Sud, renfermés dans le musée de Londres, peuvent se figurer, si bon leur semble, qu'ils sont retournés à domicile. Rien à voir que des rues, des rues, des rues. Rien à respirer que des rues, des rues, des rues. Rien qui puisse changer un peu et rafraîchir l'esprit usé par la fatigue. Le travailleur épuisé n'a qu'une seule manière d'employer son temps, c'est de comparer la monotonie de son jour de repos avec la monotonie des 6 jours précédents, de songer à la triste existence qu'il a menée et de tirer de là la meilleure conclusion possible ou la plus mauvaise selon toute probabilité. C'est à cet heureux moment, si propice aux intérêts de la religion et de la morale, que M. Arthur Clennam, récemment arrivé de Marseille par la route de Douvres et déposé par la voiture de Douvres devant l'hôtel de la Fille aux yeux bleus, était assis à la croisée d'un café de Ludgate Hill. Il se voyait entouré de 10 000 maisons respectables qui contemplaient les rues qu'elles formaient avec un regard aussi sombre que si chacune d'elles eût servi de domicile à ces 10 jeunes gens des 1001 nuits qui, chaque soir, se noircissaient le visage pour gémir sur leur sort fatal. Il se trouvait entouré de 50 000 repères, dont les habitants menaient une vie si malsaine que l'eau fraîche qu'ils montaient le samedi soir dans leur chambre trop peuplée était putride le dimanche matin. Ce qui n'empêchait pas Milord, leur représentant à la Chambre des communes, de s'étonner grandement qu'ils ne voulussent pas dormir du samedi soir au dimanche matin en compagnie de leur provision de viande de boucherie. Des lieux entiers de puits étouffants, de véritables citernes Saint-Jean-des-Maisons, où les habitants tiraient la langue faute d'air, s'étendaient au loin vers tous les points de la boussole. Un égout infect et meurtrier, qui aurait dû être une belle et fraîche rivière, coulait et refluait au cœur même de la ville. Quel besoin profane pouvait éprouver 1 million d'individus qui travaillaient 6 jours de la semaine, au milieu de ces objets dignes de charmer des bergers d'Arcadie, dont la délicieuse uniformité les poursuivait depuis le berceau jusqu'à la tombe. Quel besoin profane de changement voulez-vous qu'ils éprouvent le 7e jour? Il est clair qu'ils ne peuvent avoir besoin que de la surveillance d'un bon policeman. M. Arthur Clennam, assis à la fenêtre d'un café de Ludgate Hill, comptait les tintements d'une cloche voisine dont il faisait malgré lui des refrains et des flonflons, tout en se demandant combien de malades ces cloches pouvaient tuer dans l'espace d'une année. À mesure que l'heure du service divin approchait, les changements d'intonation rendaient le bruit de plus en plus intolérable. Au début de cet appel, qui dure un quart d'heure, la cloche fut d'une importunité vive et implacable et convoqua la populace avec une volubilité extrême. « Venez à l'église, » disait-elle, « venez à l'église, venez à l'église !» 5 minutes après, elle commença à se douter que les fidèles seraient peu nombreux, et elle cria lentement et d'un ton de mauvaise humeur, « Ils ne viendront pas, ils ne viendront pas, ils ne viendront pas !» Au bout de 10 minutes, ayant perdu tout espoir, elle ébranla chaque maison du voisinage pendant 300 secondes, à une vibration par seconde, laquelle ressemblait à un gémissement plaintif, « Dieu soit loué !» dit Clennam, lorsque l'heure sonna et que la cloche se fut arrêtée. Mais ce bruit avait réveillé en lui le souvenir d'une longue suite de bien tristes dimanches, dont la procession ne voulut pas s'arrêter en même temps que la cloche et continua sa marche. « Que le ciel me pardonne, dit-il, et à ceux qui m'ont élevé. Maton a s'est fait prendre en grippe ce jour-là. » Il revit le lugubre dimanche de son enfance, où il se tenait assis, les mains devant lui, presque hébété par une affreuse petite brochure, qui commençait ses débats avec le pauvre enfant en lui demandant en manière de titre pourquoi il courait tout droit à la perdition. Curiosité impertinente que le lecteur, qui portait encore une robe et des caleçons, n'était vraiment pas à même de satisfaire, et qui, afin de se rendre plus attrayante pour un jeune esprit, contenait à chaque seconde ligne une parenthèse renfermant un renvoi semblable à un hoquet, à la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 et 7. Puis il revit les dimanches endormants de sa vie d'écolier, où un piquet de maître d'études le conduisait à l'église trois fois dans les 24 heures, comme un déserteur militaire, enchaîné moralement à un écolier du même âge. Ah, qu'il eût volontiers alors donné deux des sermons indigestes qu'on l'obligeait à avaler, en échange d'une once ou deux de plus de ce mouton de qualité inférieure qui formait sa principale nourriture physique. Puis il revit les dimanches interminables de sa jeunesse, où sa mère, au visage toujours sévère, au cœur toujours inexorable, se tenait toute la journée derrière une grande Bible, comme si de tous les livres, c'était celui-là qu'il fallut choisir pour bannir la bonne humeur, les affections naturelles et les douces relations de la famille. On aurait pu deviner la façon dont la lectrice interprétait l'écriture, rien qu'à voir la reliure du livre, dure, nue et froide. La couverture en était encadrée d'un seul ornement renfoncé qui imitait les anneaux d'une chaîne, et le relieur avait embelli la tranche d'éclaboussure d'un rouge courroucé. Puis il revit, en sautant un court intervalle, les dimanches haineux où, sombre et maussade, il demeurait immobile sur son siège pendant toute la tardive longueur du jour, gardant au fond du cœur un sentiment vindicatif et ne comprenant pas plus le sens véritable de la salutaire histoire renfermée dans le Nouveau Testament que s'il eût été élevé par des sauvages idolâtres. Toute une légion de dimanches, dont chacun était un jour d'amertume inutile et de chagrin, passa lentement en revue devant les yeux de sa mémoire. « Pardon, monsieur, dit un garçon actif en frottant la table, voulez-vous voir votre chambre à coucher ?»« Oui, c'est justement ce que j'allais vous demander. »« Madame, cria le garçon, monsieur à la malle numéro 7, demande à voir sa chambre à coucher. »« Attendez, dit Clennam, sortant de sa rêverie, je ne songeais pas à ce que je disais. » « Je vous ai répondu machinalement. Je ne couche pas ici. Je vais chez moi. »« Très bien, monsieur. Madame, monsieur à la malle numéro 7, couche pas ici. S'en va chez lui. » Monsieur Clennam resta au même endroit, tandis que le jour baissait, regardant les sombres maisons en face et songeant que si les âmes incorporelles des anciens habitants pouvaient revoir leur domicile terrestre, elles devaient se trouver bien malheureuses d'avoir jamais été condamnées à loger dans de pareilles prisons. Parfois, une ombre apparaissait derrière la vitre ternie d'une croisée et disparaissait dans l'obscurité, comme si elle avait vu de la vie tout ce qu'il lui en fallait et qu'elle s'en retourna plus ou moins satisfaite au pays des revenants. Bientôt, la pluie commença à tomber en lignes obliques entre lui et ses maisons, et les piétons commencèrent à se rassembler à l'abri du passage d'en face, avançant de temps à autre la tête pour regarder d'un œil désespéré le ciel, d'où la pluie tombait plus abondante et plus rapide. Puis des parapluies ruisselants, des jupons crottés et la boue se montrèrent à leur tour. Que faisait cette boue auparavant, et d'où diable venait-elle? C'est ce que personne n'aurait pu dire, mais elle parut se former en un clin d'œil, comme se forme un rassemblement, et ne demandait que 5 minutes, voilà la lumeur de réverbère qui fait sa ronde, et à mesure que la flamme jaillit à son approche, elle paraît tout étonnée, vraiment, qu'on lui permette d'éclairer une scène aussi triste. Monsieur Arthur Clennam prit son chapeau, boutonna son habit et sortit. À la campagne, la pluie eut développé 1000 fraîches senteurs, et chaque goutte brillante eut réveillé dans l'esprit du promeneur, sous quelque belle forme, l'idée de la végétation et de la vie. Dans la grande ville, elle ne développa que des odeurs rances et infectes, dont elle portait l'offrande au ruisseau de Londres, en un tribut malsain, tiède, sale et ignoble. Il passa devant l'église Saint-Paul et descendit par un angle prolongé, presque jusqu'au bord de la Tamise, en traversant ces rues tortueuses et penchées qui vont de Cheapside à la rivière, devenant de plus en plus tortueuse et penchée à mesure qu'elle s'en rapproche. Passant ensuite devant l'hôtel moisi d'une honorable corporation aujourd'hui oubliée, puis devant les croisées illuminées d'une église déserte qui semblait attendre quelque aventureux Belzoni pour y déterrer son histoire, puis devant des magasins et des entrepôts silencieux, puis au travers d'une ruelle conduisant à la rivière où une méchante petite affiche, trouvée noyée, pleurait sur le mur humide, il atteignit enfin la maison qu'il cherchait, une vieille maison de briques, si sombre qu'elle paraissait presque noire, isolée derrière une grille. Devant la maison, il y avait une cour carrée, où dépérissaient deux ou trois arbrisseaux et une pelouse, aussi inculte, et ce n'est pas peu dire, que la grille qui les protégeait était rouillée. Derrière, on voyait un amas confus de toits. C'était une maison double en profondeur, avec des croisées longues, étroites, lourdement enchâssées. Bien des années auparavant, elle s'était mise dans la tête de se laisser glisser jusqu'à terre. On l'avait étayée, et elle s'appuyait encore sur une demi-douzaine de ces béquilles gigantesques qui, rongées par l'intempérie des saisons, noircies par la fumée de charbon, couvertes de mauvaises herbes, servaient de gymnase à tous les chats du voisinage et ne paraissaient plus former un appui bien rassurant. « Rien n'est changé, » dit le voyageur, s'arrêtant pour regarder autour de lui, « aussi sombre et aussi triste que jamais. Voilà encore à la croisée de ma mère cette lumière qui, jamais, je crois, n'a cessé de brûler depuis l'époque où je revenais de la pension deux fois par an et où je traînais ma malle par-dessus ces pavés. Allons, allons. » Il alla à la porte qui était abritée par une marquise de bois sculpté, représentant, sur des serviettes drapées en festons, des têtes d'enfants hydrocéphales et dessinées d'après un modèle architectural fort admiré autrefois. Il frappe. Un pas traînant se fait bientôt entendre sur les dalles de l'antichambre, et la porte est ouverte par un vieillard courbé et momifié, sauf les yeux d'un vif perçant. Il tenait à la main un chandelier qu'il souleva un moment pour que la lumière aidât ses yeux perçants. « Ah, c'est Monsieur Arthur, » dit-il, sans émotion aucune. « Vous voilà enfin arrivé. Entrez. » Monsieur Arthur rentra et referma la porte. « Vous avez pris du corps et de l'embonpoint, » dit le vieillard, se retournant pour le regarder, après avoir de nouveau soulevé la lumière et secoué la tête. « Mais vous ne valez pas encore votre père, ni même votre mère. »« Comment va-t-elle, ma mère ?»« Elle va toujours de même. Elle garde la chambre quand elle n'est pas forcée de garder le lit. » Elle n'a pas quitté sa chambre 15 fois en 15 années, Arthur. Ils étaient entrés dans une salle à manger pauvre et mesquine. Le vieillard avait posé le chandelier sur la table. Le coude droit appuyé sur la main gauche, il caressait son menton de parchemin tout en regardant le visiteur. Le visiteur lui tendit la main. Le vieillard la prit assez froidement. Il paraissait préférer sa mâchoire et il y revint aussitôt qu'il put. « Je doute que votre mère soit bien aise d'apprendre que vous avez voyagé un dimanche, Arthur, » dit-il en hochant la tête d'un air sagace. « Vous ne voulez sans doute pas que je m'en retourne. »« Qui, moi ? Je ne suis pas le maître. Il ne s'agit pas de ce que je veux. J'ai servi de plastron entre votre père et votre mère pendant des années. Je n'ai pas envie de servir de plastron entre votre mère et vous. » « Voulez-vous lui dire que je suis revenu ?» « Oui, Arthur, oui. Oh, certainement. Je vais lui dire que vous êtes revenu. Voulez-vous bien attendre un moment ? Vous ne trouverez rien de changé ici. » Il prit un autre chandelier dans une armoire, l'alluma, laissa le premier sur la table et alla exécuter sa commission. C'était un petit vieillard chauve, vêtu d'un gilet et d'un habit noir à collet montant, d'une culotte de velours gris et de longues guêtres de même étoffe. Grâce à ce costume équivoque, il pouvait passer à volonté pour un commis ou pour un domestique. Et en effet, il remplissait, depuis longtemps, l'une et l'autre de ses fonctions. En fait d'ornement, il ne portait qu'une montre plongée dans les profondeurs de la poche destinée à cet usage, au moyen d'un vieux ruban noir, auquel était amarrée tout au bout une clé de cuivre ternie, espèce de bouée de sauvetage qui indiquait l'endroit où la montre avait coulé à fond. Il avait la tête de travers et se mouvait tout d'un côté avec une certaine démarche d'écrevisse qui donnait à penser que ses fondations avait cédé à la même époque que celle de la maison et qui faisait regretter qu'on ne l'eût pas étayée de la même façon. « Que je suis faible, » dit Arthur Clennam, lorsque son guide eut disparu. « Je me sens presque envie de pleurer de cet accueil. Moi qui n'ai jamais été habitué à autre chose, et qui sais bien que je ne dois pas m'attendre à autre chose. » Non seulement il en avait envie, mais il le fit. Ce ne fut que la faiblesse passagère d'une nature désillusionnée dès l'enfance, mais qui n'avait pas encore renoncé à toutes ses aspirations, à toutes ses espérances. Il maîtrisa son émotion, prit le chandelier et examina la salle. Pas un des vieux meubles n'avait changé de place. Les 7 plaies d'Égypte, encadrées et sous verre, étaient toujours accrochées à la muraille, seulement un peu plus ternies qu'autrefois par la fumée et les mouches, ces 2 autres plaies de Londres. Le vieux cabaret, avec rien dedans, doublé de plomb et qui avait l'air d'une sorte de cercueil à compartiments, était toujours là. Voilà bien aussi le vieux cabinet noir, toujours avec rien dedans, dont il avait tant de fois été l'unique habitant, au jour de punition, alors que cet antre sombre lui paraissait être la véritable entrée de l'enfer, vers lequel la brochure déjà nommée l'accusait d'aller au galop. Voilà bien encore sur le buffet cette grande horloge lugubre qui tant de fois avait penché sur lui son visage numéroté, empreint d'une joie féroce, lorsqu'il était en retard avec ses leçons, et qui semblait, quand on la remontait une fois par semaine avec une manivelle de fer, témoigner en grinçant le plaisir sauvage que lui causait d'avance les misères dont elle espérait abreuver l'écolier. Mais voici le vieillard qui revient en disant « Arthur, je passe devant vous pour vous éclairer. » Arthur monta après lui l'escalier, qui était divisé en panneaux semblables à des tablettes tumulaires, et entra avec lui dans une chambre à coucher obscure, dont le parquet s'était enfoncé et tassé peu à peu, de façon à laisser la cheminée au fond d'une vallée. Dans ce vallon, sur un canapé noir pareil à une pierre, le dos appuyé sur un grand coussin anguleux, qu'on eût pris volontiers pour le billot des exécutions capitales du bon vieux temps, était assise la mère d'Arthur Clennam dans son costume de veuve. Son père et sa mère avaient toujours vécu en mésintelligence, d'aussi loin qu'ils pouvaient se rappeler. Demeuré silencieux sur sa chaise, au milieu d'un profond silence, promenant avec effroi son regard de l'une à l'autre de ces figures qui se tournaient le dos, telle avait été l'occupation la plus paisible de son enfance. Elle lui donna un baiser vitreux et 4 doigts roides, enveloppé dans un tricot de laine. Cette embrassade terminée, il s'assit de l'autre côté de la petite table placée auprès de sa mère. Il y avait du feu dans la cheminée, comme il y en avait eu, nuit et jour, depuis 15 ans. Près du feu, une bouilloire qui y chauffait jour et nuit, depuis 15 ans. Une petite croûte de charbon humide au-dessus du charbon qui brûlait, et un petit amas de cendres balayé en tas au-dessous de la grille, comme il y en avait eu nuit et jour depuis 15 ans. Il y avait enfin dans la chambre mal aérée une odeur de teinture noire que le feu tirait depuis 15 ans du crêpe et de l'étoffe qui composaient le costume de la veuve, et depuis 15 ans aussi, de ce canapé funèbre. « Mère, voilà qui ne ressemble plus à vos vieilles habitudes d'activité. » « Le monde s'est rétréci pour moi, Arthur. Il se borne à cette chambre, » répliqua-t-elle en regardant autour d'elle. « Bien m'appris de ne pas m'attacher à ses vanités. » La présence et la voix forte et dure de sa mère exercèrent sur le nouveau venu la même influence qu'autrefois. Il sentit se réveiller en lui la froideur et la réserve timide de son enfance. « Ne quittez-vous jamais votre chambre, mère ?» Grâce à mon affection rhumatismale et à la débilité nerveuse qui s'ensuit, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Je ne quitte pas ma chambre. Je n'ai pas franchi ce seuil depuis... Dites-lui depuis combien, ajouta-t-elle, s'adressant à quelqu'un par-dessus son épaule. Il y aura 12 ans à Noël, répliqua une voix fêlée qui se fit entendre dans l'obscurité derrière le canapé. Est-ce vous, Affery ? Demanda Arthur, regardant dans cette direction. La voix fêlée répondit que c'était Affery, et une vieille femme s'avança, jusque dans le peu de jours douteux qu'il y avait, envoya un baiser à Arthur, puis s'évanouit de nouveau dans l'obscurité. « Je suis encore en état, » dit Madame Clennam, en indiquant, d'un léger geste de sa main droite, enveloppée du tricot, un fauteuil à roulettes debout auprès du grand secrétaire soigneusement fermé. « Je suis encore en état de faire mes affaires, et je remercie le ciel de cette faveur. C'est une faveur précieuse, mais assez causée d'affaires le jour du Seigneur. Il fait mauvais temps ce soir, je crois. « Oui, mère. Neige-t-il » S'il neige, mère, quand nous ne sommes encore qu'au mois de septembre ?»« Pour moi, toutes les saisons se ressemblent, » répondit-elle avec une sorte de satisfaction lugubre. « Renfermé comme je le suis, je ne distingue pas l'été de l'hiver. Il a plu au Seigneur de me mettre au-dessus de tout cela. » Avec ses froids yeux gris et ses froids cheveux gris et son visage immobile, aussi roide que les plis de son bonnet pétrifié, l'influence qui la mettait à l'abri des saisons ne semblait qu'un résultat tout naturel de celle qui la mettait à l'abri de toute émotion. Sur sa petite table, il y avait deux ou trois livres, son mouchoir, une paire de lunettes d'acier qu'elle venait de quitter et une grosse montre d'or à double boîte de forme ancienne. Les yeux de la mère et du fils se fixèrent simultanément sur ce dernier objet. « Je vois que le paquet que je vous ai envoyé, à la mort de mon père, vous est parvenu sain et sauf, mère. Vous voyez. Jamais, à ma connaissance, mon père n'avait montré autant de sollicitude que lorsqu'il m'a recommandé que cette montre vous fût expédiée sans délai. Je la garde là en souvenir de votre père. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il a exprimé ce désir. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de poser la main dessus et de me dire très distinctement « À votre mère !» Une minute auparavant, j'avais cru qu'il divaguait, comme il l'avait fait pendant bien des heures, mais sans souffrance physique, je crois, durant sa courte maladie. Lorsque je l'ai vu se retourner dans son lit et essayer d'ouvrir la montre. Votre père n'avait donc pas le délire lorsqu'il essaya de l'ouvrir. Non, il savait parfaitement ce qu'il faisait à ce moment. Madame Clennam hocha la tête. Était-ce pour écarter le souvenir du défunt ou pour combattre l'opinion de son fils? Ce n'était pas bien clair. Après la mort de mon père, je l'ai ouverte moi-même, pensant qu'elle pouvait renfermer quelques souvenirs. Mais je n'ai pas besoin de vous dire, mère, que je n'y ai découvert que le vieux rond de soie brodé de perles, que vous avez sans doute retrouvé à sa place entre les deux boîtes où je l'ai remis. Madame Clennam fit un signe de tête affirmatif, puis elle ajouta « Assez causé d'affaires le jour du Seigneur. » Après quoi elle ajouta encore « Affery, il est 9 heures. » Sur ce, la vieille à la voix fêlée débarrassa la table et sortit de la chambre et revint promptement avec un plateau sur lequel se trouvait un plat de petites biscottes et un petit rond de beurre, systématique, frais, symétrique, blanc et potelé. Le vieillard qui était assis debout auprès de la porte, sans changer d'attitude pendant toute l'entrevue, regardant la mère comme il avait déjà regardé le fils, sortit en même temps et, après une longue absence, revint avec un autre plateau, sur lequel il y avait une bouteille de Porto presque pleine, qu'il venait apparemment de chercher à la cave, car il était encore tout essoufflé, un citron, un sucrier et une boîte à épices. Avec ces ingrédients, et à l'aide de la bouilloire, il remplit un grand verre d'un mélange chaud et parfumé, mesuré et composé avec une exactitude aussi scrupuleuse que s'il se fût agi d'une ordonnance de médecin. Madame Clennam trempa dans ce mélange un certain nombre de biscottes qu'elle mangea, tandis que la vieille en beurrait quelques autres, destinées à être mangées seules. Lorsque l'invalide eut absorbé toutes les biscottes et bu tout le mélange, on enleva les deux plateaux. Les livres, la chandelle, la montre, le mouchoir et les lunettes furent replacés sur la table. Madame Clennam mit alors les lunettes et lut tout haut dans un de ses livres certains passages d'une voix dure, farouche, irritée, priant afin que ses ennemis, par son intonation et par son geste, elle en faisait expressément ses ennemis personnels, fussent passés au fil de l'épée, brûlés vifs, frappés de la lèpre et de la peste, complètement exterminés, et que leurs os fussent broyés en poussière. En l'entendant, son fils croyait sentir les années lui tomber de la tête comme dans un rêve, remplacé par les sombres horreurs de son innocente enfance, que l'on préparait habituellement au sommeil par des lectures semblables. Madame Clennam referma le livre et resta quelques minutes à se recueillir, le visage caché dans sa main. Le vieillard fit comme elle, sans changer autrement d'attitude. La vieille femme imita sans doute aussi l'exemple de sa maîtresse dans la partie la plus obscure de la chambre. Puis la malade se disposa à se coucher. « Bonsoir, Arthur. Affery verra à ce qu'il ne vous manque rien. Ne me serrez pas trop la main, elle est tout endolorie. » Il toucha la laine qui enveloppait la main. Il s'agissait bien de la laine. Quand même sa mère eût été protégée par un étui de cuivre, cela n'aurait pas mis entre eux une plus forte barrière. Et il suivit le vieillard et sa femme qui descendaient. Celle-ci lui demanda, dès qu'elle se trouva seule avec lui dans la salle à manger, s'il voulait souper. « Non, Affery, pas de souper pour moi. »« Vous en aurez si vous voulez, » dit Affery. « La perdrix qu'elle doit manger demain est dans le garde-manger. C'est sa première de l'année. Dites un mot et je vous la ferai rôtir. » Non, il avait dîné tard, il ne voulait rien manger. « Buvez quelque chose, alors, » reprit Affery. « Vous aurez un verre de son vin de Porto, si vous voulez. Je dirai à Jérémie que vous m'avez donné l'ordre de vous apporter la bouteille. » « Non, il ne voulait pas non plus. » « Ce n'est pas une raison, Arthur, » dit la vieille, se penchant pour lui parler à l'oreille, « parce qu'ils me font trembler dans ma peau, pour que vous trembliez aussi. » « Vous avez la moitié de la fortune, n'est-ce pas ?»« Oui, oui. » « Eh bien alors, qu'est-ce que vous craignez ? Vous êtes malin, n'est-ce pas, Arthur ?» Il fit un signe de tête affirmatif pour contenter la vieille. « Alors, jouez serré avec eux. Elle est terriblement maligne, elle. Et il faut quelqu'un de bien malin pour oser lui dire un mot. Lui aussi, il est fièrement malin. Oui, il est malin. Et il arrange madame, allez, quand l'envie lui en prend. Votre mari ose ? Ose ? Ça me fait trembler des pieds à la tête de l'entendre arranger madame comme il le fait. Mon mari, Jérémy Flintwich, s'est dompté jusqu'à votre mère. Vous voyez s'il faut qu'il soit malin. » Le pas traînant du vieux Jérémy, s'avançant vers la salle à manger, la fit reculer à l'autre bout de la chambre. Bien que madame Jérémy fût une grande femme aux traits durs et à la charpente vigoureuse, qui, dans sa jeunesse, aurait pu s'engager dans un régiment de la garde sans trop craindre d'être reconnue, elle parut s'affaisser sur elle-même à l'approche du petit vieillard aux yeux perçants, à la dégaine d'écrevisse. « Ah ça, Affery, » dit celui-ci à sa femme, « à quoi penses-tu ? Est-ce que tu ne peux pas trouver pour M. Arthur quelque chose à grignoter ?» M. Arthur répéta le refus qu'il avait déjà fait de grignoter quoi que ce fût. « Très bien alors, » reprit le vieillard, « va faire son lit dans ce cas. Remue-toi. » Le cou de Jérémy était tellement de travers que les bouts du nœud de sa cravate pendillaient ordinairement sous une de ses oreilles. Son aigreur et son énergie naturelle, toujours en lutte avec les efforts continuels qu'il faisait pour les comprimer, donnaient à ses traits une boursouflure bouffie. En somme, il avait l'air d'un homme qui se serait pendu un beau jour, mais qui aurait continué à vaquer à ses affaires, gardant toujours au cou la corde qu'un voisin obligeant serait venu couper à temps. « Vous allez avoir maille à partir avec votre mère, » dit Jérémy. « Elle se doute qu'à la mort de votre père, nous avons pourtant voulu vous laisser le plaisir de lui dire vous-même la même chose. Vous avez renoncé aux affaires. Ça n'ira pas tout seul. »« J'avais renoncé à tout pour les affaires. Il est bien temps maintenant que je renonce aux affaires à leur tour. »« Très bien, » s'écria Jérémy, qui voulait dire « très mal ».« Très bien, seulement ne comptez pas, Arthur, que je vais servir de plastron entre votre mère et vous, comme j'ai servi de plastron entre elle et votre père. Parent par-ci, parent par-là, toujours entre l'enclume et le marteau. Je ne veux plus de ça. » « Ce n'est pas moi qui vous prierai jamais de reprendre ces fonctions, Jérémy. » « Tant mieux, car je me serais vu obligé de refuser si on m'en avait prié. » « En voilà assez, » comme dit votre mère, et plus qu'assez sur un pareil sujet, le jour du Seigneur. « Affery, femme, n'as-tu pas encore trouvé ce qu'il te faut ? Elle était en train de prendre dans une armoire des draps et des couvertures. Elle s'empressa de les rassembler et de répondre « Si, Jérémie !» Arthur Clennam l'aida en se chargeant lui-même du paquet, souhaita le bonsoir au vieillard et suivit Affery jusqu'au comble de la maison. Ils montèrent d'étage en étage, à travers l'odeur croupie d'une vieille maison mal ventilée et à moitié inhabitée, pour s'arrêter dans une chambre à coucher en mansarde, aussi triste et nue que toutes les autres. Elle paraissait encore plus laide et plus lugubre grâce aux meubles de rebut dont elle était le lieu d'exil. Son mobilier se composait d'abominables vieilles chaises avec des fonds usés, d'autres vilaines vieilles chaises sans fond, d'un tapis dont le dessin effacé montrait la corde, d'une table invalide, d'une commode démantibulée, d'une garniture de foyer si amincie qu'on aurait dit des squelettes de pelles et de pincettes défuntes, d'un lavabo qui avait tout l'air d'avoir été exposé pendant des siècles à une sale averse d'eau de savon, et d'un lit sans rideaux dont les quatre maigres colonnes, terminées en pointe, semblaient se dresser là dans le but sinistre de rendre service aux locataires qui aimeraient mieux s'empaler que de dormir dans une pareille chambre. Arthur ouvrit la longue croisée pour contempler la forêt de cheminées noires et délabrées et cette lueur rougeâtre du ciel qu'autant jadis il prenait pour la réflexion nocturne de ce voisinage infernal et flamboyant, toujours présent à sa jeune intelligence, de quelque côté qu'il dirigea ses regards. Il quitta la croisée, s'assit auprès du lit, et regarda Affery qui mettait les draps. « Affery, vous n'étiez pas mariée lorsque je suis parti. » Elle donna à sa bouche la forme qu'il fallait pour dire non, secoua la tête et continua à fourrer un oreiller dans sa taille. « Comment donc cela s'est-il fait ?»« Mais c'est Jérémie, ça va sans dire, » répliqua Affery, qui tenait entre les dents un coin de la taie d'oreiller. « Il va sans dire que c'est lui qui vous l'a proposé, mais comment cette idée vous est-elle venue ? Je n'aurais jamais pensé que ni vous ni lui eussiez songé à vous marier l'un ou l'autre, encore moins que vous eussiez jamais songé à vous marier l'un avec l'autre. » « Je ne l'aurais pas cru moi-même, » dit Madame Jérémie, nouant les cordons de la taie d'oreiller. « C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce donc qui vous a fait changer d'avis ?»« Je n'ai pas changé d'avis. » Tandis qu'elle caressait l'oreiller qu'elle venait de poser sur le traversin, elle vit que son interlocuteur continuait à la regarder comme s'il eût attendu la fin de cette phrase. Elle donna un grand coup de poing au milieu de l'oreiller et ajouta « Comment pouvais-je m'en empêcher ?»« Comment vous pouviez vous empêcher de vous marier ?»« Parbleu, » dit Madame Jérémie, « je n'y suis pour rien. Je n'y aurais jamais pensé, moi. J'avais bien autre chose à faire que de penser à cela, ma foi. » C'est elle qui s'est mise à mes trousses, tout le temps qu'elle pouvait aller et venir dans la maison, et elle était bien allante dans ce temps-là. Eh bien, après, répéta Madame Jérémie comme un écho, c'est justement ce que je me suis dit. Eh bien, après, à quoi bon réfléchir? Quand des gens aussi malins que ces deux êtres-là ont mis ça dans leur idée, que voulez-vous que j'y fasse? Rien. C'est donc ma mère qui a projeté ce mariage? « Le Seigneur vous bénisse, Arthur, et me pardonne d'invoquer son nom !» s'écria Affery, parlant toujours à voix basse. « S'il n'avait pas été du même avis, croyez-vous que jamais cela fût arrivé ? Jérémie ne m'a jamais fait la cour. Je ne devais pas m'y attendre, après être resté tant d'années sous le même toit, et lui avoir obéi ainsi que j'ai fait. Il me dit comme ça un matin, qu'il me dit « Affery, dit-il, j'ai quelque chose à vous demander. » « Que pensez-vous du nom de Flintwinch ?»« Ce que j'en pense, que je dis. »« Oui, qu'il me répond, parce que vous allez le prendre. »« Le prendre, que je dis, Jérémie ?»« Oh, il est bien malin, allez !» Madame Jérémie s'était mise à étendre sur le lit un second drap, puis une couverture de laine, puis un couvre-pied, comme si elle eût terminé là son histoire. « Eh bien, » dit encore une fois Arthur, « « Eh bien, » répéta encore Madame Jérémie, toujours comme un écho, « comment pouvais-je m'en empêcher ?»« Il me dit, Affery, il faut que vous et moi, nous nous marions ensemble, et vous allez voir pourquoi. Elle ne se porte plus aussi bien qu'autrefois, et elle aura presque toujours besoin de quelqu'un dans sa chambre. Alors nous serons constamment après elle, et il n'y aura personne que nous pour l'approcher lorsque nous ne serons pas là. Bref, ça sera plus commode. Elle est de mon opinion, qu'il dit. Donc, si vous voulez bien mettre votre chapeau, lundi prochain, à 8 h du matin, ce sera une affaire bâclée. Madame Jérémie releva le couvre-pied. Eh bien ? Eh bien, répéta Madame Jérémie, justement, je m'assois et je me dis, eh bien. Pour lors, Jérémie continue, quant aux bancs, comme on les publiera pour la 3e fois dimanche prochain, j'ai commencé à les faire publier il y a 15 jours, c'est pour cela que j'ai fixé lundi. Elle vous en parlera elle-même. Et maintenant que vous voilà averti, vous ne serez pas prise au dépourvu, à Fury. Le même jour, elle m'en a parlé en me disant, « Il paraît à Fury que vous et Jérémie allez vous marier. J'en suis bien aise, et vous aussi, avec raison. C'est une bonne chose pour vous, et qui ne peut que m'être agréable dans les circonstances actuelles. Jérémie est un homme sensé et digne de confiance, plein de persévérance et de piété. » Que pouvais-je répondre quand les choses en étaient arrivées là? Mais quand il se serait agi d'aller me faire juguler au lieu d'aller me marier, Madame Jérémie avait eu beaucoup de peine à trouver dans son esprit cette forme d'expression, je n'aurais pas été en état de dire un seul mot pour m'y opposer avec ces deux finauds-là contre moi. Pour ce qui est de ça, je le crois. Vous pouvez le croire, Arthur, je vous en réponds. Affery, quelle est cette jeune fille que j'ai aperçue tantôt dans la chambre de ma mère? Fille, demanda Madame Jérémie d'un ton un peu criard. C'est certainement une jeune fille que j'ai vue près de vous, presque cachée dans un coin obscur. Oh bon, la petite Dorit! Oh, ce n'est rien du tout. Un de ses caprices à elle. Une des singularités de Madame Jérémie consistait à ne jamais désigner Madame Clenham par son nom. Mais il y a au monde d'autres filles qui valent mieux que celle-là. Avez-vous oublié votre ancienne bonne amie? Depuis longtemps, bien longtemps, je parie. J'ai assez souffert de la séparation exigée par ma mère pour ne pas l'avoir oubliée. Je me la rappelle très bien. En avez-vous une autre? Non. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, alors. Elle est à son aise et veuve. Et si vous voulez l'épouser, rien n'empêche. Comment savez-vous cela, Affery? C'est les deux finauds qui en ont causé. Voilà Jérémie sur l'escalier. Et au bout d'une minute, elle était éclipsée. Madame Flintwinch venait d'attacher au tissu que l'esprit d'Arthur était en train de broder activement dans ce vieil atelier où avait existé le métier de sa jeunesse, le dernier fil qui manquait au dessin. La folie éphémère d'un amour d'enfant avait pénétré jusque dans cette sombre maison et avait rendu Arthur aussi malheureux et aussi désespéré que s'il eût habité un château enchanté. Une semaine à peine auparavant, à Marseille, si le charmant visage de la jeune fille, dont il s'était séparé à regret, avait éveillé en lui un intérêt inusité et l'avait si vivement occupé, c'était à cause de sa ressemblance réelle ou imaginaire avec le premier visage qui avait plané au-dessus de sa vie dans les brillantes régions de l'imagination. S'accoudant à la longue et étroite fenêtre, il contempla de nouveau cette forêt de noires cheminées et se mit à rêver, car la tendance uniforme de la vie de cet homme aux instincts spéculatifs, qu'une direction meilleure aurait pu tourner vers des méditations moins stériles, avait contribué à faire de lui un rêveur, et voilà tout. Chapitre 4. Madame Jérémie fait un rêve. Lorsque Madame Jérémie rêvait, elle rêvait autrement que le fils de sa vieille maîtresse, c'est-à-dire les yeux fermés. Ce soir-là, quelques heures seulement après avoir quitté le fils de sa vieille maîtresse, elle fit un rêve d'une vivacité étrange. Et même cela n'avait nullement l'air d'un rêve, tant il semblait réel sous tous les rapports. Voici comment les choses se passèrent. La chambre à coucher de M. et Mme Jérémie Flintwinch se trouvait à quelques pas de celle dont Mme Clenham n'était pas sortie depuis si longtemps, bien que les deux appartements ne fussent pas au même étage. En effet, celui des serviteurs était situé dans un coin de la maison où l'on arrivait en descendant 5 ou 7 marches, lesquelles venaient rejoindre l'escalier principal, presque en face de la porte de Mme Clenham. On ne pouvait guère affirmer qu'il se trouvât à portée de voix de cette dame, tant les murs, les portes, les panneaux du vieil édifice avaient d'épaisseur. Mais il était facile d'aller d'une chambre à l'autre à toute heure, même en toilette de nuit, et quelle que fût la température. Au chevet du lit de Madame Jérémie, à un pied tout au plus de son oreille, on voyait une sonnette, dont le cordon était attaché au poignet de Madame Clenham. Chaque fois que cette sonnette retentissait, Madame Jérémie sautait à bas du lit et se trouvait dans la chambre de la malade avant d'être bien réveillée. Après avoir mis sa maîtresse au lit, allumé la lampe et dit bonsoir, Madame Jérémie alla se coucher comme de coutume, si ce n'est que son seigneur et maître n'avaient pas encore paru. Eh bien, ce fut justement son seigneur et maître en personne, bien qu'il n'eût pas songé à lui en se couchant, ainsi que le veulent les psychologues pour expliquer le mécanisme des rêves, qui devint le héros de celui de Madame Jérémie. Il lui sembla qu'elle se réveillait après avoir dormi quelques heures. Elle s'apercevait que Jérémie n'était pas encore couché, et pourtant, qu'en regardant la chandelle laissée allumée et en mesurant le temps à la façon d'Alfred le Grand, qui n'avait pas apparemment d'autre horloge, elle s'était convaincue, d'après l'état du luminaire, qu'elle dormait déjà depuis longtemps. Que là-dessus, elle s'était levée, s'était enveloppée dans un peignoir, avait mis ses pantoufles et descendu l'escalier à la recherche de Jérémie, dont l'absence l'intriguait beaucoup. L'escalier était aussi matériel et aussi solide qu'on pouvait le désirer, et Madame Jérémie le descendit sans aucune de ces déviations qui sont l'essence d'un rêve. Elle ne sauta pas de haut en bas, elle descendit de marche en marche, se dirigeant au moyen de la rampe, attendu que la chandelle venait de s'éteindre. Dans un des coins du vestibule, derrière la porte d'entrée, il y avait une petite chambre d'attente, semblable à l'ouverture d'un puits, et dont l'étroite et longue fenêtre avait l'air d'une crevasse. Une lumière brillait dans ce cabinet dont on ne se servait jamais. Madame Jérémie traversa l'antichambre, dont les dalles glacèrent ses pieds sans bas, et jeta un coup d'œil à travers les gonds rouillés de la porte entr'ouverte. Elle s'attendait à trouver son époux endormi ou évanoui. Mais non, il était là, tranquillement assis auprès d'une table, tout éveillé, et aussi bien portant que jamais. Mais quoi, est-il possible? Le Seigneur ait pitié de moi. Madame Jérémie murmura quelques exclamations de ce genre, et se sentit tout étourdie. Car M. Flintwinch, éveillé, observait M. Flintwinch endormi. Il était assis d'un côté de la petite table, fixant un regard scrutateur sur son image qui dormait en face de lui, le menton sur sa poitrine, avec force ronflement. Le Flintwinch, éveillé, avait le visage tourné en plein du côté de sa femme. Le Flintwinch, endormi, se présentait de profil. Le Flintwinch, éveillé, était le vieil original. Le Flintwinch, endormi, n'était que la copie. Tout étourdie qu'elle pût être, Madame Jérémie saisit cette différence comme elle eût pu distinguer celle qui existe entre un objet matériel sensible au contact et la réflexion de cet objet dans une glace. Si elle eût pu douter un seul instant que le Jérémie éveillé fût son Jérémie à elle, l'impatience naturelle de son cher époux eût dissipé toute incertitude à cet égard. Il chercha autour de lui quelque arme offensive, saisit les mouchettes, et avant de s'en servir pour enlever le chou-fleur qui couronnait la mèche de la chandelle, il porta une botte au dormeur, comme s'il eût voulu le percer de part en part. « Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria le dormeur, s'éveillant en sursaut. Jérémie fit avec les mouchettes un geste qui annonçait qu'il les lui eût volontiers fait avaler pour lui rentrer les paroles dans le gosier. Le camarade, revenu à lui, ajouta en se frottant les yeux « Je ne savais plus où j'étais. « Savez-vous que vous avez dormi 2 heures ?» grommela Jérémie, regardant à sa montre. « Et vous disiez qu'un petit somme suffirait pour vous reposer ?»« Eh bien, j'ai fait un petit somme, » répondit Jérémie numéro 2. « 2h30 du matin, » marmotta le vrai Jérémie. « Où est votre chapeau? Où est votre pardessus? Où est la boîte ?»« Tout est là, » répliqua Jérémie numéro 2, s'attachant un cache-nez autour du cou, avec un trouble qui se sentait encore de son sommeil. « Attendez un instant. Maintenant, donnez-moi la manche. Pas cette manche-là, l'autre. Ah, je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. » Monsieur Flintwinch venait de lui passer son habit avec une énergie violente. « Vous m'avez promis de me verser un second verre lorsque je serai reposé. »« Buvez, » répliqua Jérémie, « et que le diable vous étrangle. » »« Non, ce n'est pas cela que je voulais dire. Buvez et allez-vous-en. » Tout en parlant, il prit cette même bouteille de Porto que nous avons déjà vue pour en remplir un verre. « C'est le Porto de madame, je crois, » dit le facsimilé, goûtant le vin comme un amateur qui visite l'entrepôt et qui a du temps à perdre. « À sa santé !» Il avala une gorgée. « À votre santé !» Il avala une autre gorgée. « À la santé du nouveau venu !» Il avala une troisième gorgée. « Et à la santé de tous nos amis absents !» Il vida le verre et le reposa sur la table, d'après l'antique pratique des toasts civiques, et prit la boîte. C'était une cassette de fer d'environ 2 pieds carrés qu'il pouvait porter assez aisément sous son bras. Jérémie surveilla avec attention la manière dont il l'ajustait. Il la tira pour s'assurer que l'autre la tenait solidement. Puis il enjoignit à son compagnon, avec les plus terribles menaces, de prendre garde à ce qu'il faisait. Puis il sortit sur la pointe des pieds pour lui ouvrir la porte. Madame Jérémie, ayant prévu cette sortie, était déjà sur l'escalier. Le reste se passa d'une façon si ordinaire et si naturelle qu'elle put voir la porte s'ouvrir, sentir l'air frais de la nuit et apercevoir les étoiles qui brillaient au dehors. Mais c'est alors que le rêve devint étrange. Elle avait tellement peur de son mari qu'elle resta sur l'escalier sans pouvoir bouger pour battre en retraite et regagner sa chambre, ce qu'elle aurait très bien pu faire avant que Jérémie eût refermé la porte. Et elle se tint immobile sur une des marches. Aussi, lorsque celui-ci remonta, chandelier en main, pour aller se coucher, il arriva droit sur elle. Il parut étonné, mais ne dit pas un mot. Il fixa les yeux sur elle et continua sa route. Madame Jérémie, sous l'influence de ce regard, reculait à mesure qu'il avançait. De manière qu'ils arrivèrent dans leur chambre dans cet ordre, Madame Jérémie faisant un pas en arrière, à chaque pas que M. Jérémie faisait en avant. Ils n'y furent pas plus tôt renfermés que le mari saisit sa femme par la gorge et se mit à la secouer jusqu'à ce qu'elle fût sur le point d'étouffer.
« Ah ça, affairé, femme, affairé !»
dit M. Jérémie Flintwinch. « Tu es donc somnambule ? Réveille-toi ! Qu'est-ce qui te prend donc ?»«
Ce qui me prend, Jérémie, » répondit Mme Jérémie d'une voix haletante et roulant des yeux effarés. « Ah ça, affairé, femme, affairé, tu t'es donc levée tout endormie, ma chère. Je monte me coucher après m'être endormie moi-même en bas et je te trouve en peignoir en proie à un cauchemar. Affairé, femme, » continua-t-il avec un sourire amical sur son visage expressif, « si jamais tu t'avises de faire encore un rêve pareil, ça me prouvera que tu as besoin de quelque médecine. Et je t'en donnerai, ma vieille, une telle dose, vois-tu ?» Madame Jérémie le remercia et se glissa dans son lit.